Frères et sœurs en Christ, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus, le premier-né de la création. Pourquoi Jésus, l'homme, est le premier-né de la création? Jésus, fils de Dieu, premier homme composé d'un corps de chair, de sang et d'eau, est devenu le premier-né de la création, parce qu'il a accompli le commandement de Dieu créateur, celui ordonné à l'homme Adam. Genèse 2, de 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Jésus, l'homme, est le premier à accomplir cette vision de Dieu pour l'homme. Il est le premier homme à avoir accepté de cultiver et garder Dieu en lui, dans son corps. Il est le premier homme à accepter de se sacrifier pour racheter son frère homme, pour faire de lui enfant de Dieu. Il est le premier homme à accepter de souffrir dans sa chair pour son semblable, le prix à payer pour nous racheter. Actes 9, 15 et 16. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Jésus, l'homme devenu le corps du Christ, a souffert pour nous racheter et permettre notre adoption en tant qu'enfant adoptif de Dieu le Père de Jésus. Romains 8, de 14 à 17. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Depuis la création, aucun homme de chair, de sang et d'eau n'a accompli cette ordonnance de Dieu, c'est-à-dire de le cultiver et le garder. Genèse 2, versets 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jardin, c'est Dieu lui-même. Dans ce jardin, on y trouve deux arbres. L'arbre de vie, qui est Christ, la vie de Dieu, son pouvoir. L'arbre de la connaissance, qui est le Saint-Esprit, la puissance créatrice de Dieu. Le jardin, c'est tout simplement la plénitude de la divinité ou la présence de Dieu. Adam devait d'abord cultiver en lui la vie de Dieu et son pouvoir. Cela lui donnera l'éternité avec un corps immortel, c'est-à-dire un corps incorruptible. Ensuite, Adam, ayant en lui la vie de Dieu et son pouvoir, Dieu lui-même lui donnera sa puissance créatrice et son autorité, le Saint-Esprit de Dieu. Adam devait suivre l'ordre établi par Dieu. La vision de Dieu en créant l'homme, c'était de faire de l'homme un Dieu visible. Car Dieu, la plénitude de la divinité, est esprit. On ne le voit pas et on ne l'entend pas. L'homme Adam devait être l'instrument de Dieu. Ainsi, à travers le corps de l'homme, Dieu devient visible et peut alors accomplir son œuvre. Cet homme devient alors l'enfant de Dieu, le corps de Christ, Dieu visible. L'homme devient alors la troisième personne de la Sainte Trinité. Dieu le Père, Christ, Dieu créateur, le Saint-Esprit. Dieu le Fils, qui est aussi Dieu visible, l'homme. Cet homme doit être saint. Car les trois différentes entités de Dieu qui composent l'unique Dieu sont saintes. C'est pour cela, Jésus, un homme ressuscité, avait dit à Marie de Magdala, dans Jean 20, 17, Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Jésus, l'homme, précise bien ceci, « Mon Père, mon Dieu. » Et lui, Jésus, est Dieu le Fils. Mais avant d'en arriver là, Jésus devait d'abord compléter la Sainte Trinité, ensuite recevoir l'ordre de la Sainte Trinité pour venir établir la mission de la Nouvelle Alliance. Ainsi, tous les croyants chrétiens accomplissant ce commandement de Dieu donné à l'homme sont ou font aussi partie de la Sainte Trinité, en tant que Dieu le Fils par la foi, car ils ont en eux le corps du péché. Maintenant, frères et sœurs en Christ, nous allons ensemble, par la grâce de Dieu, voir comment ceux qui sont venus avant Jésus, eux n'ont pas pu accomplir ce commandement de Dieu. Depuis Adam, Noé, Abraham, Moïse, David, Salomon et tous les prophètes avant Jésus, hommes, n'ont pas accompli et saisi la vision de Dieu pour l'homme vis-à-vis de son Créateur. Dieu leur a parlé, il a tout fait. Malgré cela, ils avaient les yeux et les oreilles fermés et bouchés. Job 33, verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Vous verrez que tous ont construit des autels. L'autel, c'est la confirmation de la séparation de Dieu avec sa création. Un seul homme a détruit l'autel, c'est Jésus. Et il a procédé à la réconciliation entre Dieu et l'homme. Le corps de l'homme devenait le temple de Dieu par son esprit. Jean 2, 18, 19 et 21, 22. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai. » Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Après avoir décliné l'offre de Dieu, ce commandement qui était de cultiver Dieu et le garder, Adam a fait le choix de cultiver le monde, la terre, d'où il a été pris. Adam était devenu l'ami du monde. Jacques 4, verset 4. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Souvent on dit, c'est Dieu qui a chassé Adam. Non, c'est Adam qui a choisi de partir du jardin. Dieu ne chasse personne, c'est l'homme qui choisit. Vous connaissez la parabole, fils perdu, cet enfant du roi. Ce n'est pas le roi qui l'a chassé du palais, c'est bien l'enfant qui a pris la décision de partir. Luc 15, de 13 à 24. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Frères et sœurs en Christ, en écoutant ces passages, que constatons-nous? Ce n'est pas le roi qui a chassé son fils. Le choix de partir venait de son fils. Lorsqu'on commet le péché, cela veut dire que tu as pris la décision de partir ou sortir de la présence de Dieu. C'est le choix de celui qui commet le péché. Le péché n'aime pas la présence de Dieu. Les esprits démoniaques ne supportent pas la lumière. Donc, ce sont eux-mêmes qui décident de fuir la lumière. La lumière ne les chasse pas. Donc, Adam, ne supportant pas la lumière, il était obligé de partir de la présence de Dieu. Il le sait très bien que là où il va, la mort l'attend. C'est cela le choix. Il a choisi la mort. Deutéronome 30, 19, 20. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Ici, c'est bien expliqué. Adam a choisi la mort et la malédiction. On reçoit ce qu'on demande. On récolte ce qu'on a semé. On entend souvent les croyants chrétiens dire « Je suis fâché avec Dieu. Pourquoi Dieu m'a fait cela ?» Non, Dieu ne t'a rien fait. C'est toi-même le responsable de ce qui t'arrive. C'est ton choix. 2 Corinthiens 13, 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Il ne suffit pas de condamner Dieu, mais de t'examiner toi-même. Cela est aussi arrivé à Josué et aux enfants d'Israël. Josué 7, versets de 6 à 9. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, « Ah, Seigneur Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple ? Pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr ? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain ! De grâce, Seigneur, que dirais-je ? Après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis, les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront et nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom ? C'est cela le comportement du croyant chrétien vis-à-vis de notre Père. Josué pose des questions. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi as-tu permis cela? C'est ce qui se passe souvent chez les croyants chrétiens. Mais voici ce que Dieu dit à Josué. Josué 7, de 10 à 13. L'Éternel dit à Josué, « Lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulées. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis. Car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde, nous dit 1 Corinthiens 11, 31 et 32. Nous devons bien retenir qu'Adam s'est chassé lui-même. Il a commis un péché, et nous savons que Dieu ne partage pas sa gloire. Car le corps de l'homme est la gloire de Dieu et le champ de Dieu. Dans le champ de Dieu, il n'est pas permis de cultiver l'ivraie. L'ivraie, c'est-à-dire le péché. Le corps appartient à Dieu. Il a racheté ce corps pour semer sa parole. Il ne faut pas semer autre chose en dehors de la parole de Dieu. Celui qui sème autre chose dans son corps, appartenant à Dieu, est automatiquement disqualifié et devenu étranger de la vie de Dieu. La seule solution pour réintégrer la présence de Dieu, c'est se repentir et s'éloigner du péché. La repentance vraie, c'est abandonner ce péché et ne plus le refaire. Celui qui, après la repentance, continue encore d'exercer ce péché, il se moque de Dieu. Vous le savez très bien qu'on ne se moque pas de Dieu. Dieu, c'est un feu dévorant, un feu qui ne s'éteint point. Car si on se repent et qu'on abandonne ce péché, Dieu aussi pardonne et oublie et ne se souvient plus de ce péché. Hébreux 8, 12. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Adam s'est assis sur son péché. Il est devenu l'enfant de la perdition. Il faut renaître de nouveau pour recevoir la grâce de Dieu par Jésus-Christ. Jésus-Christ a payé la rançon et a établi une loi de la repentance. C'est en recevant Jésus-Christ, en devenant Jésus le corps du Christ par le baptême, qu'on est pardonné. Il faut alors garder cette repentance en renonçant à ce péché. Frères et sœurs en Christ, nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. Pourquoi Jésus a été désigné le premier-né de la création par l'obéissance au commandement de Dieu? Vu la méchanceté de l'homme, Dieu a pris une décision d'exterminer toute la création. Mais Dieu trouvant un homme juste à la personne de Noé, prenons Genèse 6, de 1 à 3. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femme parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » L'homme était devenu orgueilleux. L'homme s'est éloigné de son Créateur. L'homme est devenu incrédule. L'homme a hérité la nature de son père Adam. Il n'obéit plus à son Créateur. La décision de Dieu de l'exterminer est prise. Genèse 6, de 5 à 8. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Dieu parla à Noé. Genèse 6, de 11 à 14 et de 17 à 19. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre. » pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établirai mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. L'arche était l'image du royaume de Dieu et son Christ, c'est-à-dire l'abri du Très-Haut. L'arche était aussi la vision de la relation entre Dieu et l'homme. Noé et l'arche ne faisaient qu'un. Cette image est un message de Dieu à Noé. C'est de prôner la réconciliation entre Dieu et l'homme. La question est savoir si Noé avait compris ou saisi le message de Dieu. Nous dirons ce message de la vision de Dieu, Noé ne l'a pas saisi ni compris. Pourquoi ? Genèse 8, 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Dieu n'avait pas besoin d'un autel de briques construit par les mains humaines. Dieu avait besoin du corps de Noé, afin que ce corps lui serve d'instrument, pour que Dieu, en tant qu'esprit, s'exprime à travers ce corps. Ainsi le corps de Noé sera le corps du Christ, hébergeant Dieu, c'est-à-dire la plénitude de la divinité. Le corps de Noé devenait donc la troisième personne de la Sainte Trinité. Mais non, Noé confirme par la construction de l'autel pour Dieu la séparation entre Dieu et l'homme. Ainsi, pas de réconciliation. Étant séparé par Dieu, Noé doit sortir de l'arche. L'Esprit de Dieu quitte l'homme. Ce n'est pas le sang des taureaux et des béliers que Dieu souhaitait, mais le corps de l'homme, Noé, Hébreux 10, de 1 à 7. En effet, la loi, qui possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. » Alors j'ai dit, voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Noé a échoué et n'a pas compris ou saisi la vision de Dieu pour l'homme. De ce que Dieu attend attend de l'homme. Dieu ne se satisfait pas des offrandes, des sacrifices et des holocaustes des bêtes, mais de lui offrir le corps comme un instrument à travers lequel Dieu Esprit va se servir pour se faire voir et se faire entendre afin d'accomplir sa volonté, c'est-à-dire accomplir ses œuvres. L'autel, le temple, les églises, les mosquées, construits par les mains humaines, ne répondent pas à la vision de Dieu, Dieu créateur. Actes 17, 24 et 25. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Ces passages parlent d'eux-mêmes. La construction des temples, des églises, des mosquées, des synagogues, qualifiées maison de Dieu, confirme tout simplement la séparation avec Dieu. Vous verrez que tous les hommes, hormis Jésus-Christ, n'ont pas ordonné la destruction de ces édifices, c'est-à-dire ces maisons soi-disant maisons de Dieu. Ils ont plutôt continué à les construire. Abraham aussi n'a pas saisi, ni compris la vision de Dieu pour l'homme. Genèse 18, de 1 à 3. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. » Si nous lisons ces premiers passages de la visitation d'Abraham, il y a quelque chose qu'on doit saisir et comprendre. La tente est tout simplement le corps d'Abraham. En lisant ces passages, Abraham utilise « tu » et non « vous ». Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je t'en prie, loin de ton serviteur. Cela veut dire qu'Abraham ne voyait qu'un seul homme. Et pourtant, ils étaient trois. Cette vision de Dieu, Dieu l'a confirmée dans le corps d'Abraham. Genèse 17, de 3 à 5. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. » Abraham, c'est l'ensemble de ces trois hommes, la Sainte Trinité. Dieu unique et visible égale Abraham, un homme, et les deux autres invisibles, la plénitude de la divinité invisible. Abraham plus H.A. égale Abraham. Abraham fait habiter dans son corps les deux autres qui sont invisibles. Cela donne Abraham. Colossiens 2.9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est cela la vision que Dieu attendait, que l'homme accomplisse cette vision. Et c'est comme cela que l'homme se réconcilie avec Dieu le Créateur. Et oui, c'est cela la réconciliation entre Dieu et l'homme. Mais Abraham n'a pas persévéré dans cette vision de Dieu. Parce qu'Abraham, malgré le port de ce nom, Abraham, il a aussi bâti l'autel de briques qui constitue la séparation d'avec Dieu. Genèse 12, 6 et 7. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel, qui lui était apparu. Abraham, malgré le changement de nom, il n'a pas saisi ni compris la vision de Dieu. Il n'a pas persévéré. Il est revenu par ses derniers passages à la séparation avec Dieu en utilisant le « vous ». Genèse 18, de 4 à 5. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Ici, dans ces passages, les yeux de Abraham étaient fermés. Il ne voyait plus le Dieu unique, mais séparé. Abraham utilise maintenant « vous », alors qu'avant, Abraham utilise « tu ». Maintenant, le « vous », permettez, pour vous laver, reposez-vous, fortifiez votre cœur. Vous continuerez votre route, vous passez près de votre serviteur. Abraham a aussi échoué. Au lieu d'accomplir la vision de Dieu pour l'homme, qui est de faire habiter Dieu dans son corps, il a bâti l'autel de séparation qui sépare l'homme de son Créateur. Donc, pas de réconciliation avec Dieu. Cela a continué avec les enfants d'Abraham sortis de ses reins. Isaac, Jacob, ils ont aussi bâti l'autel. Personne n'a voulu faire habiter Dieu dans son corps. Tous se sont cachés devant Dieu, comme leur père Adam. Genèse 3, 9 et 10. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Moïse, lui, a eu la même vision et en plus clair, même par écrit. Moïse a d'abord cassé les tables de pierre, taillées et écrites de main de Dieu. L'arche de l'Alliance, Moïse n'a pas saisi ni compris le message. Habiter et marcher au milieu d'eux, c'est tout simplement habiter dans le corps d'Israël. Job 33, 14. Dieu parle cependant. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Amis en Christ, malgré la manière dont Dieu présentait sa vision, aucun de ces hommes n'a saisi ni compris la vérité de la vision, de ce que Dieu attendait de l'homme. Tous ont voulu la séparation avec Dieu au lieu de se réconcilier. C'est pour cela ils construisaient l'autel loin des habitations des hommes, signe de se cacher. D'abord Israël, c'est Jacob. Genèse 32, 28. Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Donc, comme vous voyez, Israël, c'est bien Jacob. L'arche de l'Éternel, c'est tout simplement la plénitude de la divinité. Si Moïse avait gardé les tables de pierre écrites par Dieu, Moïse aurait découvert ce qu'avait été la vision de Dieu pour Jacob, Israël. L'arche de l'Éternel au milieu d'Israël, cela veut tout simplement dire que Jacob cultive en lui la plénitude de la divinité. Jacob serait donc la troisième personne de la Sainte Trinité. Donc la vision de Dieu était de faire de l'homme la troisième personne de la Sainte Trinité, Dieu le Fils. C'est pour cela Israël n'était pas considéré par Dieu son fils. Ni les prophètes, ni David, ni Salomon, tous ont bâti des autels pour Dieu l'Éternel. Mais aucun n'a voulu héberger ou cultiver Dieu en lui et le garder. Alors Dieu va se poser la question en lui-même. Ésaïe 6, 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Ici, dans ces passages, qui est celui qui répond et dit, « Me voici, envoie-moi » C'est Christ qui répond. Mais beaucoup, dépourvus de l'Esprit de Dieu, disent que c'est Ésaïe qui répond. C'est faux. Celui qui répond, c'est l'un de la plénitude de la divinité. Il s'appelle Christ. Il est donc envoyé dans le monde. Il vient sauver l'homme et accomplir la volonté de Dieu, c'est-à-dire la vision de Dieu pour l'homme. Qui marchera pour nous ? Cela veut dire avoir le corps charnel comme son corps. Faire la volonté de Dieu. Hébreux 10, de 5 à 10. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit « Voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Après avoir dit d'abord « Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. » Il dit ensuite « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. En suivant cet enseignement, vous avez constaté que les bâtisseurs des autels offraient du sang de taureau, des bœufs, d'agneaux aux autels bâtis par eux-mêmes, car ces bâtisseurs, pour eux, pensaient que c'était pour l'Éternel, des autels qu'ils ont qualifiés de maisons de Dieu. Alors que Dieu, selon ce que nous dit Actes 17, 24, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Et que le sang des taureaux, bœufs, agneaux ne purifie ni ne rende personne parfaite. Moins encore, ôte les péchés du monde. Hébreux 10, de 1 à 4. En effet, la loi, qui possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés? Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Par contre, le sang de Jésus, l'homme et le Fils de Dieu, qui est un sang pur sans tache ni souillure, Dieu prend beaucoup de plaisir. Et ce sang purifie et ôte les péchés du monde. C'est pour cela l'offrande unique et le sacrifice de Jésus-Christ nous sauvent du péché. Christ qui a pris le corps de Jésus l'homme. Jésus l'homme a donc accompli le commandement de Dieu son Père en acceptant de faire habiter dans son corps la plénitude de la divinité pour accomplir la volonté de son Père, chose que les autres hommes avant lui n'ont pas pu saisir et comprendre la vision de son Père pour l'accomplir. Cette vision de Dieu, il faut véritablement aimer Dieu pour l'accomplir. Écoutons ce que dit la parole de Dieu, Actes 9, 15 et 16. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Comme vous constatez, l'accomplissement de ce commandement de Dieu par l'homme comporte la force et le courage. Il faut accomplir les œuvres de la foi, c'est-à-dire accepter, tolérer, supporter, se maîtriser, patienter et attendre. Nous croyons que ce qui était venu avant Jésus-Christ, peut-être qu'ils connaissaient cela, mais il leur manquait le courage et la force d'accomplir cette mission. D'abord, il faut aimer Dieu et aimer aussi ses semblables. Matthieu 22, 36 à 39. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » 1 Jean 4, 20 et 21. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Jésus, l'homme, étant rempli de la plénitude de la divinité, il était l'image de son Père. Il était à la ressemblance de son Père. Il parlait comme son Père. Il faisait ce qu'il voyait son Père faire. Il agissait comme son Père. Colossiens 2, 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Colossiens 1, 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Hébreux 1, de 1 à 5. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges, Dieu a-t-il jamais dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Accepter d'être la troisième personne de la Sainte Trinité, c'est cultiver Dieu et surtout de le garder, vivre la vie de Dieu, mettre en mouvement la vie de Dieu dans son corps humain. Ainsi, le corps devient le corps de la parole de Dieu, c'est-à-dire Christ. Accepter de souffrir par l'amour pour Dieu, aimer son prochain comme soi-même. 1 Thessaloniciens 5, de 16 à 23. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces recommandations nous sont données par Jésus-Christ, le premier-né de toute la création, le seul homme de chair, de sang et d'eau, comme nous. Seulement, il a accompli ce que les autres hommes comme Jésus, qui sont venus avant lui, se sont trouvés incapables d'accomplir. C'est pour cela tout pouvoir dans le ciel comme sur la terre lui a été confié. Il est devenu le roi des rois, le Dieu visible. Matthieu 28, 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tous ceux qui sont venus avant Jésus, l'homme, se sont cachés devant Dieu, comme leur père Adam s'est caché, car aucun d'entre eux ne se trouvait parfait, saint et obéissant. C'est pour cela qu'ils ne pouvaient pas se présenter devant la présence de Dieu Créateur, car ils traînent des casseroles partout où ils vont. Jésus-Christ a supporté jusqu'au bout, sans commettre un péché. Il était irréprochable du début à la fin. C'est pour cela qu'il est le seul intercesseur devant son Père pour nous tous. En dehors de Jésus, aucun homme ne peut se prétendre intercesseur devant Dieu. Jean 14, de 6 à 11. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu ? Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Dieu nous ordonne d'être ses imitateurs à l'exemple de Jésus-Christ, son Fils et son serviteur. Éphésiens 5, de 1 à 5. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Tous ceux qui sont venus avant Jésus-Christ n'ont pas procédé à la réconciliation de Dieu avec l'homme, mais ils ont renforcé cette séparation d'avec notre Créateur et notre Père, car ils ont continué à bâtir les autels, signe de la séparation. Mais Jésus-Christ a d'abord ordonné la destruction de cet autel de la séparation. Ensuite, il a procédé à la réconciliation avec notre Dieu et Père en accomplissant la vision de Dieu son Père. Jean 2, 15 et 16. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Marc 11, 17. Et il enseignait et disait, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Jean 2, 18, 19 et 21. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai. » Mais il parlait du temple de son corps. Voilà la vision de Dieu son Père. Le corps de l'homme soit le temple où doit habiter la plénitude de la divinité. Dieu saint et invisible, Les autres avant Jésus, l'homme, le Fils de Dieu, n'ont pas accompli cette réconciliation. Ils ont prôné la séparation avec Dieu. 1 Corinthiens 6, 19-20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Voilà la vision accomplie par Jésus, le corps du Christ. Mais aujourd'hui encore, la majorité des chefs des églises du monde continue à accentuer cette séparation avec Dieu par la construction d'autels et de temples. Ils continuent à exiger des offrandes et dîmes converties maintenant en argent. Frères et sœurs en Christ, voilà cette vérité que nous cache le monde. Vous trouverez dans le site enamourat.com un enseignement sur les bâtisseurs des autels. Car Dieu n'a pas besoin d'autels ou de temples de briques, ni des églises, des mosquées et synagogues. D'ailleurs, Dieu n'habite pas dans ces autels ou ces temples de briques dans ces édifices. Dieu n'a pas besoin des offrandes ou des dîmes. Le seul sacrifice et la seule offrande, c'est celui ou celle de Jésus-Christ, qu'il a payé en rançon une fois pour toutes. Ce que Dieu nous demande, c'est de lui offrir notre corps pour qu'il puisse s'en servir pour accomplir ses œuvres. Le culte qui est agréable à Dieu, c'est notre comportement, notre conduite et notre attitude qui expriment la vie, la volonté et la nature de Dieu saint. On peut chanter, on peut danser, mais si ton corps ne met pas en mouvement la vie et la volonté de Dieu, alors tes chansons et tes danses ne servent à rien. Car ce sont des bruits inutiles qui ne servent à rien. Dieu ne les écoute pas et ne les regarde même pas. Ésaïe 30, verset 7. Car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Frères et sœurs en Christ, écoutez bien ceci. 1 Pierre 1, 15 et 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et oui, frères et sœurs en Christ, si nous voulons être agréables à notre Père éternel, alors amis en Christ, soyons Jésus-Christ dans toute notre conduite. Agissons, parlons, faisons tout comme Dieu à l'exemple de Jésus-Christ. Si nous voulons être agréables à Dieu notre Père, c'est d'accomplir le commandement de Dieu Créateur. Ce commandement s'accomplit par la culture de la nature et la vie de Dieu saint dans notre corps. Dieu, notre Père, n'est pas dans les autels ou temples de briques, mais dans notre corps. Donnons à Dieu notre corps, toutes les parties de nos corps. Dieu aime se servir de notre corps. Il aime fusionner avec notre corps. Devenir un avec notre corps. Il a racheté notre corps pour que notre corps lui appartienne, car il lui appartient. Le mouvement de notre corps doit être le mouvement de Dieu. Nous, croyants chrétiens, n'avons qu'un seul modèle, un seul repère. C'est Jésus-Christ. Il est le chemin qui nous mène vers le Père et nous éloigne de la seconde mort. Jésus est le chemin de la vie éternelle. Nous devons toujours nous examiner en tout moment, nous juger en tout moment. Avant de faire quelque chose, n'importe quel mouvement, demander des conseils à notre frère le Seigneur Jésus-Christ, la parole vivante. Et voici, Jésus-Christ est avec nous jusqu'à la fin du monde. Il est notre conseiller, notre ami de tous les jours. Il nous aime. Il est notre frère. Il est aussi notre Père invisible. Voici les conseils de notre Père. 2 Corinthiens 6, de 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Frères et sœurs en Christ, après avoir partagé avec vous ces vérités qui sont en Jésus-Christ, nous croyons que ces enseignements vous ont ouvert les yeux et débouché les oreilles. Vous connaissez maintenant la vision de Dieu en créant de l'homme. Aujourd'hui, vous connaissez la vérité. Vous n'êtes plus ignorant. Jacques 1, 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Se mettre à l'œuvre, c'est-à-dire continuer à cultiver Dieu dans son corps. Mettre en mouvement la vie de Dieu, la volonté de Dieu, la nature sainte de Dieu dans son corps. Celui-là ne connaîtra pas la seconde mort. Il sera toujours heureux. Apocalypse 21, de 6 à 8. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Vous pouvez écouter, frères et sœurs, des enseignements sur la connaissance de notre Dieu, de ce qu'il attend de l'homme croyant chrétien, dans notre site enamourat.com, enseignement gratuit, qui est aussi votre site car la parole de Dieu y est partagée. Voilà, frères et sœurs. Gloire à Dieu.